Voilà, bonjour à tous. Je suis content de revenir à la maison. Hein. Ça fait presque un mois qu'on était en Suisse, donc ça a été un bon temps avec la famille, même si c'était un temps plus difficile, il y avait beaucoup d'émotions, mais le Seigneur a été avec nous et on a pu vraiment aussi vivre des belles choses aussi en famille, ensemble. Voir comment que Dieu est grand et bon, et que même dans le départ de notre papa, voir comment que le Seigneur fait de grandes choses aussi à travers sa vie et les témoignages qu'on a entendus. Donc, comme je l'ai expliqué, je voulais quand même vous remercier chacun pour vos messages de sympathie, d'encouragement, de nombreuses prières suite au décès de mon papa. C'est vrai que j'ai prolongé un peu mon séjour parce qu'il y avait quelques dossiers à régler, principalement aussi pour la suite de notre maman qui avait besoin aussi de trouver un endroit plus propice aussi pour continuer, vu que l'appartement où elle était un peu grand était loin des services. Alors, on a fait beaucoup de nettoyage, de triage aussi. C'est toujours bien de trier les affaires des parents parce qu'on retrouve plein de bons souvenirs. Hein. Et je remercie le Seigneur parce que, vous savez, des fois, je vais vous le partager tout à l'heure, mais des fois, les choses, les circonstances font qu'on voit comment que Dieu prépare les choses. Pour ce voyage que j'ai fait en Suisse, le billet que j'ai pris a permis que je puisse avoir deux valises. Donc, normalement, vous savez que c'est juste une valise, puis la deuxième valise, il faut la payer, c'est très cher. Donc, au début, je me suis dit, bon, mais je vais ramener plein de bons chocolats et puis du fromage de la Suisse et toutes les bonnes choses de la Suisse. Je pense que Nicole nous a fait goûter un peu hein, déjà des chocolats de la Suisse. Mais à travers cette valise, j'ai pu mettre plutôt des souvenirs, de ramener des souvenirs, des choses de mon enfance que je me rappelle, des outils de mon papa. Hein, comme ça, quand je travaillais, je pensais aussi à lui. Donc, j'ai pu voir comment le clin d'œil de Dieu de te faire dire, ben, écoute, j'avais déjà prévu une deuxième valise pour toi, pour que tu puisses ramener des affaires. Donc, on voit comment que Dieu, je veux dire, prépare aussi les circonstances. Pense que chacun, une grande partie des personnes ici présentes, ont déjà vécu le départ d'un parent et d'un proche. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, ça va nous chercher dans les émotions, nos souvenirs, et surtout quand on est aussi à l'extérieur. J'ai remarqué encore une fois cette année comment que le fait d'être loin du pays, c'est quand même 5 000 km, ce n'est pas facile de se déplacer, de changer, de rapidement changer nos événements ou notre agenda pour pouvoir aussi aller là-bas. Mais Dieu a permis quand même que je puisse être là. Même si je n'ai pas eu l'occasion de dire un dernier au revoir directement sur place, puisqu'il est décédé, mon père, avant, mais j'ai eu l'occasion quand même de parler au téléphone. Mais je suis parti en paix. J'ai dit, Seigneur, tu n'as pas voulu qu'il reste encore quelques heures de temps pour m'attendre. C'est ta volonté, mais je pars en paix. Je ne veux pas avoir de rancune. Je ne veux pas avoir quelque chose dans ma tête qui m'empêcherait de vraiment d'être en paix. Et on a pu vivre vraiment quelque chose de merveilleux aussi, toute la famille. Moi-même, justement, je faisais des plans dans cette fête de fin d'année. On pensait faire des invitations pour notre famille. On avait déjà tout prévu, des visites, même avec l'église et pour les amis. Tout ça a été mis de côté, justement, pour passer ce temps un peu plus difficile de deuil à la place de joie, de l'espérance des fêtes de Noël. Aujourd'hui, quand je regarde un peu en arrière au début du mois de septembre, je peux voir comment le Seigneur avait préparé justement ces choses, autant pour moi que pour l'église du Carrefour Saint-Louis. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu le thème que nous avons abordé le premier dimanche du décembre. Le thème était l'humilité, une attitude d'un disciple. J'avais parlé de l'importance de cette attitude d'humilité qui nous est demandée et que nous avons vu à travers le texte de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Vous avez parlé que au mois de novembre, j'avais pris un peu un temps de retraite personnelle à l'extérieur pour prendre ce temps seul avec Dieu. Et j'ai ressenti que le Saint-Esprit me disait quelque chose en rapport avec la prière et le jeûne. Même si je savais qu'au début janvier, on a toujours normalement notre temps de jeûne et prière, et que cette année aussi, l'Église méthodiste du Canada voulait qu'on puisse le faire aussi ensemble,
Mais je me posais la question quand même au début janvier, pourquoi je vais parler de l'humilité lorsqu'on arrive dans les temps des fêtes, où tout devrait être joie et bonheur? Et c'est là que justement j'ai vu comment que Dieu est grand, comment qu'il dirige tout, même nos pensées, nos réflexions, que nous ne connaissons pas toujours pourquoi arrivent ces choses dans ce moment. Et justement, prochain dia. Lorsque je vois aujourd'hui, après cette semaine de jeûne et de prière qui a été proposée par l'Église méthodiste du Canada, sur le thème du psaume 51, je ne dis que ce n'est pas un hasard. Je ne savais pas le thème à ce moment-là, au début décembre. Ce n'est pas juste simplement un bon timing ou un hasard. Ce que j'ai parlé de ce thème au début décembre, c'était aussi l'importance du jeûne et de la prière, et j'ai pu voir comment c'était une continuité de ce que l'Église méthodiste avait proposé. J'ai eu donc, avant notre départ, une rencontre avec le conseil officiel au début décembre, où j'ai encouragé justement chaque membre à vivre un temps de jeûne, de prendre ce temps de début d'année pour être dans la présence de Dieu et être à son écoute. Tout cela, je ne savais pas ce qui allait arriver, mais Dieu le savait. Il est en train de préparer le terrain afin que les leaders de l'Église, les membres de l'Église méthodiste de Saint-Henri, du conseil officiel, prennent en charge cette semaine de jeûne et prière dans les rencontres organisées qu'on avait pour notre Église. J'ai pu voir comment que dans les commentaires, je n'ai pas forcément participé à cette semaine, vu un peu le décalage, mais j'ai entendu des très bons commentaires des participants qui ont été encouragés, édifiés par ce que les différentes personnes ont partagé. J'aimerais vraiment les remercier, ainsi que notre sœur Jeanne, pour tout le travail qu'ils ont fait pour pouvoir conduire cette semaine dans ce temps de jeûne et de prière. J'ai pu voir comment que Dieu avaient préparé le terrain et qu'ils ont pris cet engagement d'aller de l'avant dans cette semaine. Et je crois que Dieu a béni, que Dieu va continuer de bénir aussi pour cette année 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a pu vivre à travers cette semaine de jeûne de prière sur le thème du psaume 51? Regardons un peu le contexte de ce psaume. On sait que le prophète Nathan est allé parler au roi suite à ce que David avait fait avec Bathsheba. Donc David, on sait que c'est un roi qui est conquérant. C'est un roi qui, durant toute sa vie, a dû se battre contre ses ennemis. Rappelez-vous que même pour pouvoir consolider son trône, il avait été oint par Samuel, il a dû même fuir devant le roi Saül qui voulait le tuer. Et durant toute sa vie, même qu'il a voulu justement plus tard aussi construire un temple, mais Dieu lui a dit non, tu ne vas pas le faire parce que tu es un homme de guerre, tu es un homme qui a versé le sang. On le voit différemment dans les différents psaumes qu'il a écrits, que David a composés, où il demande à Dieu de détourner la faveur de ses ennemis, de le protéger devant les menaces, même de détruire ses ennemis. Donc on voit comme une fois que David va implorer Dieu de le protéger de ses ennemis, de même de les anéantir, parce qu'il voit toute cette menace qui est autour de lui. Et il est arrivé à une époque où son trône était bien établi maintenant, où la plupart de ses ennemis dans le pays voisin étaient anéantis et sous contrôle. Et c'est là qu'il a décidé de ne plus aller à les combattre. C'est vrai que peut-être c'est un peu normal, peut-être qu'un dirigeant, qu'un leader, de se reposer, de laisser les autres de faire à sa place. Mais une des raisons justement du succès du roi David dans les guerres parmi les voisins, c'est qu'il montrait l'exemple lui-même d'aller au combat et de se faire demander à Dieu la direction à prendre devant tel combat. Regardons quelques textes. Ouvrons notre Bible dans 2 Samuel chapitre 5, verset 17. On va voir comment que David se préparait, comment que David cherchait la présence, chercher la direction de Dieu, même pour aller dans la guerre. 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 20a, dit: Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi d'Israël par la préemption, ils se mirent tous en campagne à sa recherche. David en fut informé et se retira de la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et lui demanda: Dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux? L'Éternel répondit à David: Attaque-les, car je t'assure que je te donnerai la victoire sur les Philistins. David se rendit donc jusqu'à Beratil et les bâtit là. Donc on voit dans ce récit comment que dès que David fut oint comme roi, commencé d'établir son règne, ses ennemis sont venus le combattre. Et David n'alla pas seul les combattre, mais partait sous le conseil de Dieu. Dois-je aller les attaquer? Dieu lui répond, attaque-les. Et là, nous voyons que les Philistins veulent se venger de cette défaite devant le roi David et reviennent attaquer. Et que fait David? Il aurait très bien pu, grâce à cette victoire ou le moral positif de ses troupes, aller directement combattre les Philistins et leur donner une seconde défaite. Mais ce n'est pas ce que David a fait. Regardez un peu plus loin. 2 Samuel, prochain diable. 2 Samuel, chapitre 5, versets 22 à 25. Les Philistins revinrent à l'attaque et se déployèrent de nouveau dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel qui lui répondit, « N'y va pas directement, contourne-les par leur arrière, puis reviens sur eux, en face de la forêt des mûriers. Quand tu entendras un bruissement de pas dans les cimes des mûriers, alors à toi, quand je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins en les poursuivant jusqu'à l'entrée de Gézer. Donc David, de nouveau, consulte l'Éternel, qui lui dit de ne pas aller directement face aux soldats, mais de contourner par en arrière. Mais en plus, Dieu va lui dire qu'il va combattre avec lui, c'est-à-dire que l'armée céleste va aider l'armée de David pour battre définitivement les Philistins. On voit comment que David, justement, a pris une bonne attitude. De ne pas aller combattre ses ennemis sans consulter Dieu. Et de faire comme Dieu lui demande de faire. Donc, tout au long de son règne pour affermir sa royauté, David a pris cette habitude de consulter Dieu dans toutes les décisions importantes. Pour nous, aujourd'hui, on n'est plus dans une guerre physique contre des ennemis, mais on a une guerre spirituelle contre l'ennemi de nos âmes, Satan, qui veut nous détruire. Comme David, nous devons avoir cette détermination de chercher Dieu, d'être à son écoute pour entendre ce qu'il veut, ou se rappeler pour dire, dois-je attaquer? Comment, Seigneur, je dois me protéger devant l'ennemi? De rester à son écoute. Comme David consultait Dieu régulièrement dans chaque grande décision, nous devons aussi, en tant que chrétiens, prendre ce temps d'être disponible devant Dieu et dire, Seigneur, je veux être à ton écoute, je veux comprendre, saisir ce que tu attends de moi. Voilà pourquoi de ces temps de jeûne et prière, voilà pourquoi on a besoin de ces temps mis à part pour le Seigneur. Même dans cette semaine qui vient de finir, dans l'importance que nous avons pris de prendre un temps de jeûne et de prière, on a besoin encore de continuer régulièrement de prendre des temps. On peut le faire comme peut-être une semaine, on peut le faire comme une journée de retraite, on peut le faire comme quelques heures pour simplement dire, Seigneur, je laisse de côté mes activités parce que je veux me centrer sur toi, parce que je veux entendre, je veux te consulter pour que je puisse savoir qu'est-ce que je dois faire dans ma vie de tous les jours. Mais regardons plus loin de ce qui s'est passé. Prochain diable qui va justement découler de ce psaume 51. Lisons 2 Samuel, chapitre 11, verset 1 à 3. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1 à 3. Il dit, « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme se promenait sur le toit de la maison royale, du toit il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit, c'est Bathsheba, fille d'Eliab, femme d'Uri le Hittite. » Donc, on dit que dans le Proche-Orient ancien, les rois menaient justement leur campagne militaire au printemps. Parce que c'est en raison du beau temps, c'est en raison de la nourriture qui était très abondante autour lorsqu'ils commençaient à se battre sur le chemin le long du parcours pour la guerre. Donc, on voit que dans le premier verset de chapitre 11, on voit que justement David n'a plus été avec ses soldats pour combattre. Il a préféré rester tranquille chez lui. Voici ce que le commentateur Matthew Henry mentionne dans cette faute grave morale que David a faite. Il y a eu trois causes. La première, sa négligence à l'égard de ses responsabilités. Lui, en tant que roi, il devait être ce modèle. Il devait être cet exemple. Donc, il devait comme montrer l'exemple à son armée de se lever pour aller combattre ses ennemis. Mais au lieu de cela, au lieu d'être avec ses hommes pour les encourager en tant que roi, de consulter Dieu comme il le faisait devant les ennemis quand les ennemis venaient, il préfère laisser son armée le faire et lui rester en arrière. Combien de fois, en tant que personne, peut-être en tant que parent, on a peut-être négligé notre responsabilité à l'égard de nos enfants? Combien de fois, même en tant aussi dans une société ici, moderne, comment que l'homme a laissé sa responsabilité en tant que chef de famille pour pouvoir peut-être se retirer, laisser d'autres personnes prendre ses responsabilités? Mais cette première cause va amener quelque chose d'autre, le deuxième point. Sa prédilection pour le confort et l'oisir des pays. Comment est-ce que vous vous sentirez comme en tant que soldat si votre général, sous la coulée douce, pendant que vous êtes sur le front en train de combattre et de mourir? Comment que les soldats devaient se sentir? Ah ben, le roi qui était toujours avec nous, qui nous encourageait par ses messages, qui nous montrait la voie à suivre, qui consultait Dieu avant pour savoir si on allait avoir la victoire, mais là, il n'est pas là. Il est resté à Jérusalem. Souvent, des fois, nous faisons la même chose. Petit à petit, nous laissons nos responsabilités, nous laissons aller de préférant de rester couché peut-être dimanche matin parce qu'on a eu une semaine difficile au lieu d'aller à l'église, ou on prendra un temps réduit avec Dieu parce que bon, on n'a plus le temps, on a tellement de choses, de charges de notre vie. Puis à un moment donné, on est dans l'oisiveté avec notre foi. On voit que petit à petit, notre foi dégringole, notre passion pour Christ n'est plus là. Et ce qui amène aussi la troisième cause de ce péché que David a fait, sa propension à laisser errer ses regards. À cause de son confort qui voulait rester en arrière, à cause de l'oisiveté qu'il voulait avoir, il a eu tendance à regarder ailleurs. Et lorsqu'il promène ses regards et qu'il voit cette femme se baigner, il veut l'avoir. C'est vrai que peut-être en tant que roi, on le voit tellement dans les films, ils ont tous les pouvoirs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais David sait que ce n'est pas juste. Mais il a succombé à la tentation parce qu'il a relâché, il s'est relâché. Combien de fois que nous-mêmes, nous regardons à gauche, à droite, pas forcément pour pouvoir peut-être un péché sexuel, mais regarder d'autres choses, peut-être être jaloux d'une autre personne, peut-être la convoitise par rapport à certaines choses que d'autres ont, puis que moi, pourquoi je pourrais la posséder aussi. Le mépris de l'autre parce qu'il a plus que moi ou il a plus de bénédictions que moi. Autant David que pour chacun de nous. Ça commence tranquillement et sans se rendre compte, on tombe dans le piège dressé par l'ennemi. Et souvent, quand ça arrive dans notre vie, c'est lorsque nous sommes le moins attentifs. Lorsqu'on n'est plus à l'écoute de Dieu, alors que notre vie avec Dieu devient routinière. Mais là, le péché s'installe. La vie monotone avec le Seigneur s'installe. Et c'est là que nous tombons. Ces trois points, nous allons les vivre un jour dans notre vie. Et si on ne fait pas attention, on va avoir succombé au péché. Quelle que soit la nature du péché, et se retrouver comme David, qui veut cacher sa faute. Et on connaît la suite de cette histoire. Comment que David coucha avec cette femme, elle devint enceinte et pour cacher sa faute, il demanda de tuer son propre mari qui était avec l'armée en train de combattre les Ammonites. Prochain diable. Mais avant que le prophète Nathan vienne vers David pour lui expliquer son péché, il s'est passé plusieurs mois. En effet, Bathsheba devint enceinte et accoucha d'un fils. Donc ça fait au moins 9 mois que David traîne ce double péché. Celui d'avoir commis l'adultère avec une autre femme, puis d'avoir tué un innocent pour cacher sa faute. Imaginez David qui continue sa vie, qui règne sur Israël, sur Juda, mais qui pendant des mois et des mois cache sa faute. et continue comme rien n'était. Rappelez-vous que nous disons que le roi David est un homme selon le cœur de Dieu. David savait qu'il avait péché, et pour différentes raisons, il ne voulait pas l'avouer et demander pardon à Dieu. Peut-être qu'il avait peur de révéler cette faute devant le peuple, qu'un jour les gens sachent qu'il a tué quelqu'un pour avoir la femme. Est-ce que nous gardons souvent des fois des choses non avouées, des péchés qui nous rongent, qui nous éloignent de la grâce de Dieu? Voilà l'important justement de prendre des temps de recul, de prendre des temps où nous laissons les choses normales de notre vie quotidienne pour prendre du temps avec Dieu, pour être à son écoute, pour s'humilier, pour reconnaître comment nous nous sommes éloignés de notre Seigneur. Je peux vous dire dans ma propre vie, et même celle des chrétiens que je côtoie autour de moi, je n'ai pas vu que nous pouvons marcher avec Dieu sans prendre le temps d'être avec lui. Il n'y a pas de miracle. Si on ne prend pas de temps de qualité avec Dieu, notre foi va venir routinière, notre foi va venir monotone, notre passion pour Dieu va diminuer. On pourra se dire toujours chrétien, mais notre passion, notre désir d'écouter Dieu ne sera plus là. Donc voilà l'importance dans cette nouvelle année de commencer par un temps de jeûne et prière, de commencer par s'humilier, de confesser, comme David lorsqu'il a reconnu sa faute et son éloignement de la vie de Dieu. Alors, ouvrons notre Bible justement dans le psaume 51, en regardant pour terminer quelques versets, parce que nous allons prendre tout à l'heure aussi le repas du Seigneur, la Sainte Cène. Le repas du Seigneur est une façon, et est là pour nous démontrer ce que Jésus a fait il y a plus de 2000 ans. Mais c'est une occasion favorable pour confesser, pour s'humilier, pour reconnaître nos torts, nos fautes, demander la grâce de Dieu. Dans ce psaume 51, on voit la réalité de ce cœur de David, qui est meurtri par ses péchés non avoués depuis longtemps. Ce désir d'être lavé et purifié de ses fautes. Et on le voit comment que justement lorsqu'il Nathan va lui parler de cette histoire d'un homme riche, d'un homme pauvre qui avait une seule brebis et l'autre avait plein de brebis. Et lorsque un invité arrive, il préfère prendre la seule brebis du pauvre pour la tuer, pour la manger. Et là, il est en furie, David, devant une telle injustice. Et Nathan lui dit, mais c'est toi, c'est exactement ce que tu as fait. Et là, David est obligé de reconnaître. Et il écrit ce beau psaume. Regardons quelques textes. Verset 1. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes torts. Tu es si compatissant. David va demander la pitié de Dieu en même temps de lui dire comment que Dieu est bon, comment qu'il est compatissant. C'est comme dire, Seigneur, je sais que je suis dans la faute, mais je sais que tu es plein de grâce, tu es compatissant, donc efface mon péché, efface ma transgression. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. On le voit dans le verset 2. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. David demande de ne pas être juste pardonné, mais laver, purifie de son péché. Il veut renaître comme après le baptême dans l'eau. Lorsque justement, quand on plonge et quand on revient à la surface, quand on est lavé, purifié de nos péchés et qu'on vit une nouveauté de vie avec le Seigneur. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Au verset 3, quand je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. On voit que justement, dans tout le temps que David, jusqu'il avoue son péché, il n'était pas tranquille. Il n'était pas bien parce qu'il savait, jour après jour, quand il voyait Bathsheba, qui était enceinte, que son ventre se grossissait, l'ennemi le dit, mais tu vois, ça c'est le fruit de ton péché, ça. Je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Verset 4. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui était mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. David ne veut pas dire qu'il n'a pas péché contre Bathsheba et son mari Uri, mais qu'avant tout, tout péché est avant tout dirigé contre Dieu. La loi de Dieu a été enfreinte. La volonté de Dieu défiée. Le nom de Dieu déshonoré. C'est cela qui doit nous faire mal dans tous nos fautes et nos péchés. de savoir que nous avons déshonoré notre Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous a tout donné, celui qui nous a aimés le premier. Voilà pourquoi il dit que ses jugements sont justes. Personne ne peut les contester. Verset 5. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis que ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. David ne veut pas mettre la faute sur sa mère qu'il a conçue dans le péché, mais il reconnaît que cette nature pécheresse est en lui et qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Prochain diapositive, verset 6. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. David maintenant reconnaît ce que Dieu veut, c'est qu'il soit droit dans son cœur, que Dieu lui enseigne la sagesse afin de ne plus pécher, de ne plus tomber dans les pièges de l'ennemi. Et dans les versets suivants, David répète que Dieu le lave, le purifie de son péché. Et nous avons ce beau verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Seigneur, fais remettre en moi un esprit bien disposé à marcher dans tes voies, à t'obéir à tes commandements, à faire ta volonté. Et le verset 11 est comme un cri de détresse. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Je suis sûr que lorsqu'il a écrit cette phrase, il se rappelle de Saül, le roi Saül. Rappelez-vous, Saül qui était aussi loin, qui avait reçu le Saint-Esprit, mais qui à un moment donné a péché. Et au lieu de reconnaître ses torts, a continué dans son péché. Et lorsque David va jouer pour lui, combien de fois que David a voulu le tuer? Parce qu'on voit à un moment donné qu'il est dit que Dieu retira l'Esprit Saint de Saül. Et il a vu le tournant de ce roi. Il a vu tout ce qu'il a pu vivre. Et il dit, Seigneur, je ne veux pas vivre comme le roi Saül. Ne laisse pas, ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me retire pas l'Esprit Saint. Le verset 12 comme le verset 8 parle de retrouver la joie. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Lorsque nous sommes dans le péché non avoué, nous perdons cette joie. Nous ne ressentons plus l'esprit de Dieu qui est là pour nous donner la vie. Et lorsque nous avons avoué notre faute, lorsque nous avons humilié, confessé, nous pouvons retrouver cette joie de le louer, de lui offrir notre reconnaissance. Et il termine ce psaume pour dire quel est le vrai sacrifice que Dieu honore. Le seul sacrifice que le Seigneur prend plaisir. Verset 17. Le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié. Un esprit humilié, un cœur brisé et contrit. Un cœur humilié par nos fautes, qui reconnaît que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Que nous avons besoin même, après des années avec le Seigneur, d'avoir cette attitude d'humilité. C'est vrai que ce n'est pas une attitude gagnante dans une société d'être humble. On va plutôt nous dire qu'ils ont besoin d'être forts, qu'on a besoin d'être orgueilleux, plein d'autonomie pour réussir dans la vie. Mais Dieu nous demande cet esprit humilié, ce cœur brisé, et c'est ce que le Seigneur regarde. Voilà pourquoi que même si David a péché plusieurs fois, et comme dans ces cas des péchés qui sont très graves, Dieu est capable de dire à David qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il reconnaît ses fautes. Il est sincère dans sa démarche de pardon et de brisement. Même s'il va payer le prix de ses péchés. Oui, c'est vrai, prochain dia, qu'il y a des fois un prix de péché, des conséquences du péché que nous faisons. Les égarements, les éloignements de Dieu vont apporter des conséquences. Trop souvent, on voit comment que les gens disent, ben oui, je pêche, puis Dieu est plein de grâce, puis il me pardonne. Et on n'apprend pas, parce qu'on dit, ah ben Dieu est plein de grâce, Dieu est plein de grâce. Mais Dieu, c'est aussi un Dieu de justice, un Dieu de vérité. Regardez qu'est-ce qui se passe. Nathan va lui dire que la conséquence de son péché, c'est qu'il va avoir toujours la mort dans sa famille, qu'il va toujours avoir des conflits qui vont arriver. Et on le voit de plus loin, comment qu'il aille de même fuir devant son fils Absalom qui voulait venir roi à sa place. Mais lorsque son enfant qu'il a eu avec Bathsheba meurt, il va commencer à prier et jeûner pour que son fils ne meure pas. Mais nous savons que Dieu est allé jusqu'au bout de sa sentence. Il croyait, parce qu'il connaissait ce Dieu puissant, ce Dieu plein de grâce. Combien de fois il a eu la grâce que Dieu lui a pardonné. Et il dit, ben, Dieu est capable encore aujourd'hui de me pardonner et de gracier ma faute pour que mon fils puisse vivre. Et on voit comment que Dieu est bon et bienveillant. Comme il le mentionne dans ce psaume, on sait que plus tard, Bathsheba, et plus tard est tombée enceinte et qu'elle a conçu un nouveau fils, Salomon, qui va être le futur roi, le successeur de David. Les conséquences du péché peuvent être graves dans nos vies. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec Dieu en disant que ce n'est pas grave, que Dieu pardonne, que Dieu est un Dieu de miséricorde. Oui, c'est vrai. Dieu est un Dieu compatissant. Il va pardonner. Il va le faire. Mais il peut avoir des conséquences aussi. Voilà pourquoi on a besoin de rester proche du Seigneur. Voilà pourquoi comme David, on ne doit pas attendre plusieurs mois avant de revenir dans les bras du Seigneur, d'avouer nos fautes, de s'humilier, de confesser nos péchés. Et Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Et lorsqu'il voit que nous sommes réellement brisés, que nous sommes repentants, que nous confessons notre éloignement, nos péchés, nos fautes, le Seigneur est prêt à nous pardonner. La bonté de Dieu ne va pas nous laisser dans un état de pécheur. Si on veut vraiment goûter à sa présence, à sa grâce, il veut nous relever. Il veut que l'on puisse vivre des choses merveilleuses avec le Seigneur. Cette semaine, la semaine passée plus tôt, quand j'étais encore en Suisse, j'ai participé à une rencontre dans une église et le pasteur disait que Dieu n'est pas fâché lorsqu'on pêche ou qu'on avoue pas nos fautes. C'est vrai qu'il est triste. Il n'est pas fâché, en colère contre nous. Mais il veut nous faire voir revenir vers lui avec un esprit humilié et un cœur repentant. S'il serait fâché avec toutes les fautes que nous faisons, il serait toujours en colère contre nous. Oui, Dieu est en colère contre le péché parce qu'il ne peut pas, lui, Dieu trois fois saint, être en présence du péché. Mais il veut voir notre cœur. Il était triste de voir David prendre autant de temps que cela pour avouer ses fautes. Mais lorsqu'il l'a fait, il lui a pardonné. Il a vécu les conséquences du péché, mais Dieu lui a montré qu'à travers cette femme, il a pu avoir un fils qui était dans la lignée royale, dans la descendance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors simplement, couvrons notre tête maintenant. Réfléchissons à ce que le Seigneur veut nous dire. Peut-être c'est vrai que ce matin, on a commencé ce culte avec ce désir de se repentir, de se préparer notre cœur pour venir dans sa présence. Et peut-être que durant cette semaine, le Seigneur vous a parlé par rapport à un point bien précis. Par rapport peut-être à un événement, par rapport peut-être à une faute, à un péché que vous pensez, ah, c'est pas trop grave, je peux continuer avec. Peut-être avec une attitude qui ne glorifie pas Dieu. Peut-être parce que aussi, votre passion pour Christ, votre désir de vraiment suivre le Seigneur, c'est peut-être un peu diminué avec le temps. Nous avons accès ce matin, à travers le repas du Seigneur, de nous rappeler ce que Jésus est venu faire. Lui, le Fils de Dieu, lui qui était sans péché, il a été jusqu'au bout pour nous donner la vie, pour nous pardonner. Et il peut le faire encore aujourd'hui. Et il ne désire pas que nous puissions garder des choses dans notre cœur qui nous empêcheraient de goûter à sa grâce, de goûter à sa bienveillance. C'est comme ce père plein d'amour qui attend son fils, le fils prodigue, de revenir à la maison. Malgré qu'il a dépensé tout l'argent, malgré qu'il a été avec des prostituées, malgré qu'il a fait la fête, qu'il a déshonoré Dieu et même la famille, Ce père, Dieu, attend que son enfant revienne à la maison. Il ne va pas lui donner reproche, mais il va lui dire, viens, viens rentre, on va tuer le veau gras, parce qu'on va faire la fête, parce que mon fils qui était mort est retrouvé, le fils qui était perdu est retrouvé, le fils qui était mort est revenu à la vie. Voilà, voilà l'image de notre Papa Céleste, qui veut encore ce matin nous dire, viens mon enfant, viens mon garçon, viens ma fille, dans mes bras. Quel que soit ce que tu as fait, quelles que soient peut-être les choses que tu gardes dans ton cœur, je veux que simplement tu viennes avec un esprit humilié, avec un cœur brisé, contrit, un cœur de la repentance complète pour dire, Seigneur, oui, j'ai péché. Oui, Seigneur, je me suis éloigné de toi. Oui, Seigneur, il y a des choses dans ma vie qui ne te glorifient pas. Je veux les laisser à toi parce que je veux vivre une nouveauté de vie. Je veux vivre avec toi. Je ne veux pas vivre sans toi. J'aimerais aussi que pendant ce temps de Sainte-Cène, nous puissions penser aux frères et sœurs, à d'autres amis que vous connaissez, qui peut-être se sont éloignés de Dieu, qui peut-être justement combattent avec un péché non avoué. Je suis sûr qu'on connaît tous une personne. Personne qui a perdu cette passion pour Christ. J'aimerais qu'on puisse peut-être aussi prier en nous prenant ces éléments pour dire, Seigneur, va te révéler aujourd'hui. Tu es capable, là où il est, dans sa chambre, dans son temps de docilité, comme on l'a vu, dans son temps de retrait, dans son temps de malaise qu'il vit, va le visiter. Va lui montrer comment que tu es grand, comment que tu es bon et comment que tu veux qu'il revienne dans la maison du Père. On a besoin de prier les uns pour les autres. On a besoin que dans cette nouvelle année, nous puissions marcher tous ensemble pour que Dieu puisse faire un impact à travers nous, à travers nos amis, à travers les frères et sœurs de l'Église. Alors prenons simplement un petit temps de silence et laissons le Saint-Esprit parler ce matin. Parlons à notre Dieu de ce qu'on a besoin d'avouer. Parlons-lui peut-être nos égarements, notre éloignement, nos questionnements, nos situations que nous vivons, que nous ne comprenons pas. Dieu est là pour nous écouter. Dieu veut nous parler, veut se révéler. Fais vraiment une prière sincère de notre cœur aujourd'hui. Pour nous, mais aussi peut-être justement pour l'autre personne. Que Dieu nous met à cœur, afin que nous soyons purs devant toi. J'aimerais vous proposer que pendant qu'on chante encore une fois ce chant, et ensuite, avant de prendre les éléments tous ensemble, que chacun de nous on puisse lire ce psaume 51. Et encore une Bible en arrière, et que qu'on prenne ce texte vraiment pour nous. Comme David est venu à grand cri devant l'Éternel pour sa faute, qu'on puisse s'imprégner de ce psaume et dire à notre Seigneur, oui, purifie mon cœur. Alors, pendant que la musique continue doucement, simplement, chacun de nous, disons ce psaume 51, prenons ces paroles pour nous ce matin, comme une confession à notre Seigneur. Je ne veux pas naissance marquée du péché. Depuis que ma mère, j'ai été conçu le péché de ta chair. Dieu, grâce à ses côtés, de me confondre. Moi, c'est la sagesse de mon monde. Prie-moi du péché avec un rameau de feu. Je serai du feu. Là, moi, je suis le vivant de la péché. Je vois la honte de la joie de la maîtresse. Chose de cœur, je vois tout le monde. Je
dans les champs de problèmes et de justice. Et d'un amour comme il est. Comme il est en plus de ton sacrifice, tu vas faire des sacrifices au cours de ton propre plaisir. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Notre désir encore ce matin devant cette table que le Seigneur nous offre, venir avec un esprit humilié, avec un cœur brisé et contrit, confesser que j'ai encore besoin de la grâce, j'ai encore besoin de la force de mon Seigneur et Sauveur pour continuer d'agir avec vérité, avec justice devant lui. Alors écoutons ces paroles que Jésus adressé à ses disciples. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit en donnant à ses disciples en disant, prenez et mangez. Ceci mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour vous, garde vos corps et vos âmes pour la vie éternelle. Prenez et mangez ceci en mémoire de Jésus-Christ, mort pour vous, et nourrissez-vous de lui dans votre cœur. Par la foi avec action de grâce. Et même après le repas, il prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été versé pour vous, garde vos corps et vos âmes pour la vie éternelle. Buvez cette coupe en mémoire du sang de Jésus-Christ répandu pour vous et soyez reconnaissants. Seigneur, on veut te remercier pour ce rappel à travers ce psaume, à travers cette expérience que David a vécue, qui a été douloureuse, mais où il a pu, Seigneur, reconnaître ses torts. Il a pu avouer son crime. Et Seigneur, dans ta grande grâce, tu lui as pardonné. Dans ta grande grâce, Seigneur, tu as été compatissant. Tu as permis même, Seigneur, malgré la mort de son premier fils, le deuxième Salomon puisse être dans la lignée royale, la lignée Seigneur même de Jésus-Christ. Seigneur, tu es un Dieu plein de grâce, de compassion, mais tu désires que nous venions avec une attitude de contrit, brisement, qu'on s'humilie, qu'on reconnaisse que nous avons péché, que nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Seigneur, on te remercie, Seigneur, à travers ces éléments, à travers ce corps qui représente le pain, à travers ce sang qui est représenté par la coupe, nous voulons te remercier. Tu nous rappelles encore aujourd'hui que ce sang qui a été versé, que ce corps qui a été brisé pour nous est valable. Et qu'encore aujourd'hui, tu peux sauver. Qu'encore aujourd'hui, tu peux nous racheter. Tu peux nous remettre sur le bon droit chemin pour que nous puissions nous avoir cette joie dans notre cœur, pour que nous puissions voir le Saint-Esprit rayonner en nous et que on puisse être reconnaissant de ce que tu es. Alors merci. Merci pour cette semaine de jeûne et prière, pour ce temps mis à part. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce psaume, tellement ce beau psaume, que nous puissions le prendre régulièrement, afin que, Seigneur, il puisse continuer de nous fortifier, de nous permettre de grandir avec toi. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, l'Holocauste ou le sacrifice qui te plaît, Seigneur, c'est un esprit humilié, c'est un cœur brisé et contrit. Nous voulons, Seigneur, rester humbles, Seigneur, parce qu'on a toujours besoin de toi. Merci, merci, Seigneur, parce que ce matin, tu nous montres encore comment que tu veux nous redonner le souffle de vie, comment tu veux nous faire repartir sur le droit chemin. Et Seigneur, on te remercie, on te loue, que dans cette nouvelle année, tu vas faire encore de grandes choses à travers chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à tout moment, de rester proche de toi. Aide-nous à rester toujours à ton écoute, de pouvoir entendre tes conseils, d'entendre ta volonté, rester dans tes bras d'amour, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Et nous allons voir ta gloire, nous allons voir des choses magnifiques se passer dans nos vies et autour de nous. Nous te remercions de loin, Seigneur Jésus. Et maintenant que nous allons bientôt nous quitter, je te prie, Seigneur, que chacun de nous puissions recevoir
cette grâce, recevoir cette joie, recevoir cette paix, cette bénédiction que tu promets à chacun. Cette bénédiction, cette paix, cette joie que tu nous as donnée avant, que tu nous donnes encore aujourd'hui et que tu nous donnes jusqu'à ton retour. Nous voulons la prendre, nous voulons te remercier, te louer et nous dire merci Seigneur pour tout ce que tu es pour chacun de nous. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Amen. Amen.